Yep, all ready.
Bonjour à toutes et à tous. En ce jour de la Saint-Valentin, faisons fi quelques instants de nos exigences esthétiques et plongeons le cœur léger, tout en rubané de rose, dans la guimauve, en compagnie de la reine du roman sentimental, celle dont on a dit qu'elle était l'autre reine d'Angleterre. Je veux parler de Barbara Cartland. Vous savez, cette vieille petite fille en robe vaporeuse, rose bonbon, fossile, fausse rivière de diamants et pékinois greffés sur les genoux. Barbara Cartland est un véritable personnage, une femme extravagante, paradoxale, dont la vie est à elle seule un roman, pas toujours rose d'ailleurs. Elle est la fille d'un officier de l'armée britannique, le major Bertram Cartland, et de son épouse Mary Hamilton Scobell. Elle vient d'une famille aisée, mais qui a connu bien des malheurs. Le grand-père, James Cartland, financier de haut vol à Birmingham, se suicide en 1902 après avoir perdu sa fortune. Le père, le major Cartland, est tué sur un champ de bataille de la Flandre au cours de la Première Guerre mondiale. La mère est alors contrainte d'ouvrir un magasin de vêtements à Londres pour élever ses trois enfants, Barbara et ses deux frères, Anthony et Ronald. Ceux-ci mourront tous les deux en 1940, à un jour d'intervalle, dans les combats de la Seconde Guerre mondiale. À 18 ans, Barbara a terminé ses études. Elle devient journaliste à succès au Daily Express. Spécialiste de la rubrique des potins, elle écrit une colonne par jour. Parallèlement, elle se lance dans la littérature populaire en publiant son premier roman, Jigsaw, en 1923. Il sera traduit en 6 langues et dès lors, elle n'arrêtera plus d'écrire. Une très longue série de romans sentimentaux vont suivre, 724 exactement, à l'intrigue vertigineusement identique. De chaste jeune fille rencontre l'amour et la fortune auprès d'hommes virils qui finissent toujours par les épouser. Barbara, elle-même, a beaucoup de succès auprès des hommes. Elle reçoit 56 demandes en mariage. Mais la belle est beaucoup moins romantique que ses héroïnes. Elle soupèse les comptes bancaires, les Rolls, les titres nobiliaires, avant de se décider pour un dénommé Alexander Mac Corkodale. Il se marie en 1927. À cette occasion, Barbara Cartland déclare « Un mari, pour être vigoureux, a besoin d'une viande et de 2 légumes par repas. Il doit en revanche renoncer au sandwich. C'est abomination. » De ce premier mariage naîtra une fille, Reine. Celle-ci défrayera la chronique en devenant la seconde épouse d'Edward Spencer et par conséquent la belle-mère de Diana Spencer, future princesse de Galles. Ce qui fait de Barbara Cartland la grand-mère par alliance de Lady Di. Quand celle-ci subira ses premiers malheurs et se séparera du prince Charles, Barbara dira, dans un accès de feinte culpabilité, « La pauvre, elle m'aura mal lu. » Barbara finit par divorcer, elle aussi, jugeant son mari froid comme un glaçon. Elle se remarie en 1936 avec Hugh McCorkodale, qui n'est autre que le cousin de son ex-mari. De ce second mariage naissent 2 garçons, Ian et Glenn. Pendant la guerre, Barbara Cartland est évacuée au Canada, mais elle demande la permission de rentrer au pays, ce qu'elle obtient. En 1941, elle est faite commandant junior, à titre honorifique, du Women's Royal Army Corps. Elle devient responsable de l'assistance de 20 000 auxiliaires féminines militaires. Dans les années 50, elle est membre du Parti conservateur, conseillère municipale pendant 9 ans, elle mène de virulentes croisades contre l'homosexualité et la pornographie. La dame n'est pas très progressiste. Mais ses romans se vendent à plus d'1 milliard d'exemplaires. Dans le Guinness Book des records, elle se situe juste derrière la Bible. Et parmi ses amis et admirateurs, on compte Churchill, Indira Gandhi et le président Sadat. Elle bouclait un roman en 15 jours et avait pour devise « Use it or lose it ». Que l'on peut traduire en l'occurrence par « le cerveau ne s'use que si l'on ne s'en sert pas ». Dans les années 60, elle écrivait deux romans par an, dans les années 80, deux par mois. Quand j'achève un roman, je fais une prière, disait-elle, et Dieu me donne aussitôt l'intrigue du prochain. 3000 mots à l'heure, 9000 mots par jour, allongée sur un canapé corail à pompons, dos tourné à l'une de ses six secrétaires particulières, Barbara dicte ses histoires. À quelques mètres de son canapé, dans sa bibliothèque, on trouve Joyce, Tolstoï, Kant et Shakespeare, dont l'influence, il faut bien le dire, demeure discrète sur l'œuvre de la romancière. Cartland aime l'argent et elle a trouvé la recette du succès. Pourquoi s'en priverait-elle? Elle habite le manoir Tudor de Camfield Place, à 30 km de Londres, l'ancienne propriété de Beatrix Potter. 200 hectares de parc. Ici, la reine-mère tira son premier daim. Voilà comment Barbara Cartland décrit ses journées à une journaliste de Libération en 84. Petit déjeuner, 1h15. Muffins, œufs brouillés, fruits, presse-pipole. Maquillage et toilette, 3 heures. Production littéraire, de 2 à 3 heures. Déjeuner frugal, 20 minutes, mais une variété de 60 vitamines par jour. Choix des vêtements pour l'après-midi. Le plus souvent, mousseline de soie saumon et sandales à talons fuchsia. À 16 heures, la presse arrive. Par groupe de 5, les journalistes sont invités à partager avec le Pékinois, scone, canapé aux concombres, meringue, pudding à la crème. Parfois, une question politique fuse. « Pensez-vous, Mrs. Cartland, que les barrières sociales sont à jamais tombées en Angleterre ?»« Naturellement, darling, sinon je ne serais pas en train de parler à quelqu'un comme vous. »
L'orchestre attaqua les premières mesures du Beau Danube le Bleu, et tout en entraînant la jeune fille, il murmura « J'espère que vous ne disparaîtrez pas à minuit. » Elle ne répondit pas, goûtant ce bonheur intense de se trouver dans les bras de celui qu'elle avait pris autrefois pour son prince charmant et de se laisser emporter par la musique et la magie de l'instant. Les autres s'étaient écartés, les laissant seuls au centre de la salle de bal. Tout le monde les regardait. Et les commentaires allaient bon train. La duchesse douairière les suivait des yeux en fronçant les sourcils. Qui était donc cette Griselda qui avait réussi à captiver l'attention de son fils? Elle avait déjà demandé à Lord Fenwallis s'il s'agissait de sa nièce, et la réponse avait été négative. Dans ce cas, qui est-ce? Elle avait l'intention de poser la question de but en blanc à la jeune fille, une fois que les musiciens cesseraient de jouer. Mais elle n'en eut pas l'occasion, car après cette valse, le duc garda Griselda dans ses bras. Ils dansèrent une seconde fois, une troisième, une dixième. C'était un peu comme si rien ni personne ne pouvait les séparer. La mère d'une jeune fille à marier s'approcha de la duchesse douairière. « Il semblerait que Gérald ait enfin trouvé la femme de sa vie, » dit-elle d'un ton acerbe. « Mais qui est cette Griselda ?» Tout le monde se pose la question. Les yeux dans les yeux, leur cœur battant à l'unisson, le duc et Griselda continuaient de danser. Oubliés de tous ceux qui les entouraient, ils avaient l'impression d'être seuls au monde. Si la jeune fille baissait la tête en rougissant, le duc mettrait gentiment un doigt sous son menton pour l'obliger à se tourner vers lui. « Vous êtes caché par ce masque ? Je vous en supplie, dites-moi qui vous êtes, je veux vous revoir. » Il la serra contre lui. « Vous ne pourrez pas m'échapper. Je vous ai trouvé, je vous garderai pour toujours. » Les larmes vinrent aux yeux de la jeune femme. « Nous ne nous reverrons pas, » dit-elle. « Comment pouvez-vous parler ainsi ? Je sais, je sens que vous êtes celle que j'ai cherchée si longtemps, en désespérant de la trouver un jour. Je ne veux pas vous perdre. Si vous partez, « je vous retrouverai, » fit Gérald de Manerly d'un ton chargé d'intensité. « Pour cela, je n'hésiterai pas à remuer ciel et terre. » C'était dit sur un ton de la plaisanterie, mais elle savait qu'elle avait réussi à toucher son cœur, comme il avait touché le sien. Elle savait aussi qu'elle devait fuir et que jamais il ne devrait la retrouver. L'espace d'un instant, elle fut tentée de dire qui elle était, qu'elle n'avait de titre ni de dot et qu'elle vivait au cottage des Glycines sous la coupe d'une terrible belle-mère. « Je suis si stupide, » pensa-t-elle. Affolée, elle partit au pas de course. Alors qu'elle dévalait le perron, elle entendit un bruit derrière elle. « Griselda, attendez !» Le duc la rejoignit et la saisit par le bras. « Pourquoi partez-vous comme cela ? Il le faut. Partir sans même me dire au revoir ? « Après tout ce que nous venons de partager, auriez-vous un cœur de pierre ?»« Oh non !» Avec agitation, elle poursuivit. « Il faut que je m'en aille !» Il sourit. « Il n'est pas encore minuit, Griselda, ne me quittez pas !»« Oh, je vous en prie, laissez-moi !»« Griselda, rien ne pourra vous persuader de rester, même pas cela !» Sur ces mots, il l'enlaça et lui prit les lèvres. Elle laissa échapper une brève exclamation de stupeur. Puis, les yeux clos, elle se laissa aller contre la solide poitrine du duc, en répondant à ce baiser passionné, dans un élan de tout son être, avec une délicieuse inexpérience. La duchesse douairière apparut en haut du perron. « Gérald !» Il se retourna, relâchant son étreinte. Griselda en profitait pour se libérer et s'enfuir dans l'ombre des arbres. Le rêve était fini. Elle se retourna, tentant d'apercevoir une dernière fois les tours du château de Manerly. Hélas, tout était noir derrière les grands arbres. Oui, le rêve était bien fini, mais jamais elle n'oublierait les bras de Gérald de Manerly autour de sa taille, ni ses yeux étincelants cherchant les siens, ni les battements fous de son cœur, ni ses baisers passionnés. Et lui, se souviendrait-il de Griselda et de ces moments magiques qu'ils avaient passés sous les lustres de la salle de bal, tandis que l'orchestre jouait les valses entraînantes de Johann Strauss ? Ou bien ne représenterait-elle qu'une jolie fille de plus dans la longue succession des demoiselles qui avaient réussi à retenir son attention le temps d'une soirée ?
Oh, brûlante question, Barbara ! Mais sans grand suspense, n'est-ce pas ? Les personnages sont toujours les mêmes. L'homme est riche, passionné, solide. La femme est pure, innocente, timide et vierge. Et l'issue est toujours la même, le mariage. Bref, le schéma est sexiste et réducteur, les histoires sans originalité. Alors, pourquoi ça marche ? Pourquoi cette littérature a-t-elle autant de succès ? C'est qu'il s'agit de satisfaire des besoins. Des aspirations si humaines, besoin de se sentir aimé, besoin d'être sécurisé. Le roman à l'eau de rose est un formidable tranquillisant, sans ordonnance. Il vous désamorce des bombes d'inquiétude et d'angoisse. La fin est toujours heureuse, éminemment prévisible. Tout se termine bien, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Pour l'écrivain Daniel Zimmermann, le fait de lire davantage Cartland que Maupassant ou Mauriac est le signe du besoin de sentimentalisme. Il y eut toujours, dit-il, un goût très vif pour les amours dramatiques, fatales, balayant intérêt et raison. Il était une fois Tristan et Iseute, ou Roméo et Juliette, mais aussi Cendrillon ou La Belle au bois dormant. C'était beau et c'était triste. Ces histoires ont traversé les siècles et séduisent toujours. Et répondent aux mêmes rêves, aux mêmes fantasmes. Pierre-Aimé Touchard, un autre écrivain, fait cette analyse. Au lieu de condamner, de mépriser ou de fermer les yeux, est-ce qu'il ne serait pas temps d'étudier calmement les raisons d'un tel succès ? Le goût se forme, celui du public populaire comme celui des élites. Je ne vois pas quelle preuve nous aurions qu'il soit spontanément mauvais. Seulement le choix du public populaire est guidé par des besoins vitaux qu'il ne dissimule pas et auxquels il se livre gloutonnement parce qu'ils sont trop inassouvis. Le désaccord, le malentendu entre le public populaire et le public qui s'appelle cultivé, vient de ce que chez le peuple, ses besoins ne sont pas proprement esthétiques, ils sont sentimentaux. Le peuple trouve beau ce qu'il émeut sentimentalement. Et il le dit.
Détendez-vous sur Radio B. Laissez-vous porter par les bonnes ondes.
Barbara Cartland a été très active toute sa vie. Indépendante, anticonformiste, loin de ses héroïnes fleurs bleues. Beaucoup moins lisse en tout cas. Elle a participé à de nombreux shows, donné quantité d'interviews, de réceptions, de dîners de charité. Et dit beaucoup de choses, à tort et à travers. Comme par exemple, ne couchez pas avant les fiançailles et exigez des diamants. Ou, nous, les romanciers historiques, sommes là pour que les gens ressentent les émotions, pas pour qu'ils pensent. Et encore, après 40 ans, une femme doit choisir entre son visage et sa silhouette. Choisissez le visage et restez assise. Barbara Cartland écrit beaucoup. Barbara Cartland s'exprime beaucoup. Et Barbara Cartland chante. Rien n'arrêtera l'excentrique romancière que la mort, qui l'emportera à 2 mois de son 99e anniversaire. Écoutons-la interpréter. Assise dans un parc toute de rose vêtue, son pékinois sur les genoux, A Nightingale Song in Berkeley Square. Barbara Cartland.
This song is full of very special memories for me. I did fall in love in Berkeley Square, and I swear a nightingale sang in the trees as I was kissed. That certain night, the night we met, there was magic abroad in the air. There were angels dining at the Ritz. And a nightingale sang in Berkeley Square. I may be right, I may be wrong, but I'm perfectly willing to swear that when you turn and smile at me, a nightingale sang in Berkeley Square.
It was such a romantic affair. Merci Annie, merci Robinson à la technique et merci Tim qui m'a aidé à préparer cette émission. Je vous rappelle que tous les podcasts sont disponibles sur le site de Radio B. Je vous retrouve le mercredi 14 mars pour une nouvelle édition de Encore heureux, consacrée à l'écrivain roumain Émile Cioran, qui constitue à lui seul l'antidote parfait contre le rose bonbon et le bleu pastel. Cioran, c'est court, c'est noir, c'est sans sucre et d'une profondeur jubilatoire, exquise, tout autant que désespérée. Bonne fête à tous les amoureux, à très bientôt sur Radio B. Yeah,